marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Rwanda, comment juger le génocide ?
Pour le moment, il y a la Cour pénale internationale qui est érigée pour juger les affaires criminelles internationales, les génocides. On a pensé que la Tanzanie est un pays en paix, vous savez. Mmh. Il y a encore des gens qui ont peut-être des sentiments de génocide, ou je ne sais pas, ils pourraient peut-être tuer. Alors je pense qu'on a choisi Arusha parce que c'est une contrée calme où la sécurité est assurée.
Naissance en novembre 1994 du tribunal pénal international pour le Rwanda. La question du Rwanda dépasse son propre enjeu pour devenir un enjeu universel. Il y a 25 ans, en avril, l'ONU préféra pourtant jouer les abonnés absents. La mission de 2500 casques bleus chargés du maintien de la paix n'intervint pas. Pendant 100 jours, le massacre des Tutsis et de ceux des Hutus qui passaient pour être leurs amis se déroula méthodiquement, au barrage, sur les routes, dans les enclos, dans les marais, où se cachaient les survivants. Le génocide avait été ourdi par des leaders d'opinion, des miliciens le pratiquaient, avec calme et détermination, partant le matin vers les marais en chantant et revenant le soir, fatigués d'avoir coupé et percé. Un sentiment panique habitait cependant les tueurs. Il naissait de la répétition des meurtres, jour après jour, mais aussi des nouvelles qui venaient du Nord. Le FPR, Force Armée Tutsi, constituée à l'extérieur par Paul Kagame, avançait dans le pays. Le gouvernement génocidaire et intérimaire devait se replier. Il jugeait d'autant plus urgent d'achever sa tâche d'élimination. C'était la seule victoire qu'il pouvait rapporter. Le pape parla le premier de génocide dans la communauté internationale. Il faut reconnaître au ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, le mérite d'avoir utilisé, lui aussi, le mot. Mais quand le gouvernement français arracha une mission du Conseil de sécurité, l'opération Turquoise, qu'il déclencha le 26 juin, se présenta comme une intervention humanitaire. Se déroulant dans la partie du pays encore contrôlée par le gouvernement intérimaire, elle ne prévoyait ni arrestation, ni désarmement des génocidaires. Alors que les Tutsis de l'intérieur étaient réduits à un petit reste, ce sont les Tutsis du FPR extérieur qui se sont libérés eux-mêmes. Depuis, le gouvernement de Kagame est ce qu'il est, autoritaire. D'un côté, le pays qui connaît une croissance à 7% depuis 10 ans se veut un Singapour africain, ne cessant d'organiser des rendez-vous d'investisseurs. De l'autre, il organise aussi annuellement, dans ses sites mémoriaux, un long deuil qui dure jusqu'en juillet et revient à Noël, quand manquent tant d'enfants et de parents. Quant à la justice, le Rwanda se targue de l'avoir rendu plus efficacement que le tribunal pénal international créé en novembre 1994.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Tribunal qui est l'objet d'un livre d'Ornella Ravetta, bonjour.
Bonjour.
Citoyenne belge qui enseigne notamment à l'Université libre de Bruxelles. C'est un ouvrage qui paraît aux éditions Belin. Vous racontez que dès que le FPR arrive au pouvoir à Kigali, avant même la fin du régime Hutu, le gouvernement Kagame demande à l'ONU que soient établies des modalités de justice internationale.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut rappeler que dès le mois d'avril, et puis durant le mois de mai et le mois de juin, il y a une forte mobilisation, notamment de la part des ONG internationales, de ce qu'on peut appeler une société civile internationale, pour qu'il y ait une reconnaissance de ce qui est en train de se produire, qu'on mette les mots sur le fait qu'il s'agit d'un génocide. Et il y a très très tôt des appels qui sont formulés pour la création d'un tribunal pénal international pour le Rwanda. Et donc effectivement, le nouveau gouvernement, une fois mis en place à Kigali, va formuler une demande de création d'un tribunal international, mais qu'il faut bien inscrire dans cette préhistoire d'une multiplicité d'appels en faveur de cette justice internationale.
Alors c'est un tribunal pour un temps et un espace donné, comme le tribunal pénal international de Yougoslavie, qui est un peu virtuel à l'époque. C'est une différence avec Nuremberg, qui ne portait pas sur un temps et un espace très resserrés.
Alors effectivement, le temps et l'espace définie à Nuremberg est moins resserrée. Néanmoins, le tribunal de Nuremberg va fonctionner durant une année, 1945-46. En 93, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. C'est donc la première fois depuis 50 ans qu'on crée un tribunal international ad hoc pour juger des crimes internationaux. Donc c'est les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide.
Le choix d'Arusha en Tanzanie est fait pour créer le siège du TPIR. La possibilité est offerte quand les choses le permettent d'arrêter les responsables, un peu dans tous les pays du monde. Beaucoup se sont dispersés en Afrique après avoir fui, et puis un certain nombre en Europe. Mais je voudrais qu'on remette aussi les choses en ordre et qu'on comprenne ce qui se passe à ce moment-là en matière de justice au Rwanda même, où le gouvernement de Kagame a remplacé le gouvernement intérimaire. Des prisons sont pleines de détenus. Des prisons quasi à ciel ouvert. Il y a 150 000 personnes qui sont en prison en 97, au moment où a lieu ce reportage de Madeleine Mukababano pour France Culture.
Ici, dans cette cour, normalement, c'est la cour où on se repose, où on fait de diverses activités, des fêtes, des prières, ou bien des petites activités de couture, broderie, etc. Ici, il y a quatre blocs qui sont sur le même type. C'est ça le genre, notre genre d'habitation. Et chacune, il y a un espace pour neuf personnes, mais ça dépend du caractère de tout un chacun. Il y en a qui préfèrent vivre ensemble comme ça, il y en a qui préfèrent avoir leur petit chez-soi et alors ils mettent des séparations.
On mélange les personnalités politiques avec les prisonnières du peuple.
Tout le monde vit ensemble. Il n'y a pas une séparation nette entre les prisonniers politiques et les autres. Toutes celles qui sont accusées de génocide, en fait, se considèrent comme des prisonnières politiques, d'une manière générale.
Il y a beaucoup d'enfants aussi, je vois.
Pas tellement. Des petits-enfants, il y en a seulement 20. Et soit ils sont venus étant bébés, ou bien leur maman les porte encore dans leur sein. Et ils sont nés ici alors, dans ce cas-là.
Dans la section des femmes de la prison centrale de Kigali, tout le monde connaît Ansila et l'aime bien. Petite, les yeux rougis par le manque de sommeil, Ansila se tient tapie dans un coin, un peu comme une bête blessée. Et à l'écart des autres détenus. Son histoire est de celle que la société rwandaise, dans sa farouche volonté de revivre, est moins tant oubliée.
J'ai fui la guerre. Puis la guerre s'est transformée en génocide. Mon mari était tutsi. Moi, je suis hutu. Mon mari m'a convaincu de retourner chez mes parents. Il m'a dit, c'est nous qu'ils cherchent, ils veulent nous tuer, fuis avec les enfants, essaie de les sauver. Je suis partie avec mes 5 enfants et ma belle-mère. Ma belle-mère m'a dit, la situation devient grave, prends les enfants et va chez tes parents. Mes parents s'étaient enfuis, les tueurs les recherchaient parce que mon frère était marié avec une Tutsi. Je me suis quand même installée chez eux. Puis les gens qui traquaient les Tutsis sont arrivés. Ils m'ont dit, femme, que fais-tu avec ces enfants? Je n'ai rien répondu. Tu t'es enfui avec eux et ce sont eux que nous cherchons. Tue-les.
Des enfants d'un couple mixte, des cancrelats, donc c'est insupportable. Et donc cette femme va choisir de tuer proprement ses enfants avec du pesticide plutôt que de les voir coupés et percés. Il faut mesurer, Ornella Rovetta, vous l'avez fait en lisant tous les documents que vous avez pratiqués, le caractère incommensurable de ce qui s'est passé pendant 100 jours, il y a 25 ans, sous l'œil du monde. Par exemple, en ce qui concerne les les enfants. Une rescapée m'a envoyé un mot hier et elle raconte que une mère retrouve le crâne de son enfant, enfin la tête coupée, et elle va la conserver, et ce crâne maintenant, quand personne ne la regarde, elle continue à le bercer, comme quand l'enfant était un tout petit. Et puis il y a les enfants du viol.
Oui, alors, voilà, ce génocide qui est d'une ampleur énorme à l'échelle du pays, dans chaque lieu est gagné par ce génocide. C'est un génocide qui est pensé par un État, qui est mis en œuvre par l'État, par les militaires, par les milices, par les voisins aussi. À la sortie du génocide, la justice, la question de ne pas laisser ces crimes impunis, est une des nombreuses urgences qui se montrent très rapidement dès la fin du génocide.
Parce qu'il faut vivre avec les voisins, dont on sait le comportement, ou les Hutus ayant fui, protégés parfois par Turquoise au Zaïre, mais revenant, il faut revivre avec eux.
En tout cas, on est dans ce pays, on est dans le Rwanda post-génocide, et donc chacun doit trouver une manière, effectivement, de revivre, de survivre, de continuer avec des responsabilités, des femmes veuves, des femmes orphelines, des orphelins. Donc il y a toute une série de situations, effectivement, pour lesquelles les survivants aussi ont des responsabilités, tentent de vivre, en fait, dans ce contexte extrêmement compliqué, effectivement.
Le pays, au début, est vidé. Il n'y a plus de juges, morts... ayant fui, et cependant, la justice ordinaire, pour ces dizaines de milliers de prisonniers, essaye de fonctionner. Nous sommes en 97, toujours à Butare, au sud du pays.
Tous les jours, cela se passe ainsi au parquet de Butare. Des camions venant des communes avoisinantes déchargent les détenus extraits des cachots municipaux. Tous les jours, des dizaines et des dizaines de prisonniers, en uniforme rose s'ils viennent de la prison, en civil s'ils viennent des cachots, attendent ainsi dans le jardin de cette ancienne villa coloniale devenue le parquet de Butare. Ils attendent leur tour d'être interrogés par un substitut du procureur en charge de leur dossier. Et il est bien difficile de rendre la justice à Butare. Le parquet ne compte qu'une dizaine de substituts, aidé d'une demi-douzaine de secrétaires. L'informatique est inexistante, le téléphone capricieux et l'unique photocopieuse à bout de souffle. Et pourtant, c'est avec ces moyens-là que le parquet de Butare traite actuellement plus de 20 000 dossiers.
Repris par le vif du sujet de France Culture, un reportage de nos amis belges en votre honneur, Ornella Rovetta. 4 000 procès instruits et ayant eu lieu... Sous l'égide de la justice, qu'on ne peut dire ordinaire, du Rwanda, la peine de mort, elle sera abolie plus tard, appliquée dans 20% des cas, la prison à vie dans 32% des cas. Et vous avez entendu la plainte des reporters belges, il n'y a pas de moyen. Nous sommes avant que Kagame n'ait rebranché le Rwanda sur le monde contemporain. Il y a beaucoup de moyens, en revanche, au tribunal pénal international d'Arusha.
Oui, alors le tribunal pénal international pour le Rwanda installé à Arusha, effectivement, est un tribunal de la communauté internationale, un tribunal des Nations Unies. Au début, néanmoins, il faut garder en tête que ce tribunal fonctionne aussi avec des moyens très très réduits. Alors, c'est très difficile de trouver le personnel pour mener les enquêtes au Rwanda, par exemple. Donc, on a un certain nombre d'États qui vont détacher de façon temporaire des enquêteurs et qui vont rester pour quelques mois, 6 mois, mais qui ont une connaissance aussi souvent très limitée du terrain. Donc, bien sûr, on a l'image de ce tribunal avec des centaines d'employés, etc. Mais au tout début...
Jusqu'à 800, au bout d'un moment.
Oui, oui. Mais le début a été très difficile et donc ça a pris quand même... 2, 3, voire 4 années pour que ce tribunal trouve une vitesse de croisière, si on peut dire, et qu'il organise les enquêtes et puis plus tard les procès à Arusha.
Alors les enquêtes menées par des policiers venus d'un peu partout, il n'y a pas tant de volontaires que ça pour aller au Rwanda parce que c'est insupportable à observer. Ici, reportage de Radio-Canada, cette fois, toujours des francophones, c'est un pays francophone le Rwanda. Et qu'il y a Rwanda aussi, d'abord. Ici, un reportage de Radio-Canada. Deux policiers canadiens qui vont à la pêche aux informations.
Claude Paquette et Alain Lépine, deux policiers de Montréal, sillonnent les rues de Kigali depuis 4 mois et enquêtent sur les grands planificateurs du génocide.
Certaines personnes nous racontent avoir vu peut-être 30 à 40 meurtres dans leur cour, dans leur, près de leur maison, et comptent les meurtres d'enfants. Pour nous, c'est très dur à entendre. Mais il faut dealer avec ça. On était venu ici et on savait qu'on était pour dealer avec ça. Donc, on essaie de trouver la petite preuve à travers tout ça qui va relier les meurtres qui ont été faits aux leaders du génocide.
Dans ce couvent, 60 personnes auraient été tuées en 1994. On n'a pas pu filmer le témoignage des personnes qui ont vu les meurtres. Les témoins ne veulent pas être identifiés de peur d'avoir des représailles.
On essaie de prouver le complot. Tout le monde le sait, c'est que c'est organisé, qu'il y avait une organisation, mais là, il faut le prouver maintenant.
Relier l'abattage quotidien des femmes, des enfants et des hommes à une intentionnalité. Vous avez, dans votre livre chez Belin, Ornella Robetta, étudié longuement le premier procès du TPIR qui concerne un bourgmestre.
Un bourgmestre, donc un maire d'une commune rwandaise, la commune de Taba, à une trentaine de kilomètres de Kigali. Ce qui est très intéressant dans ce premier procès, c'est qu'on a là un procès finalement local qui va s'intéresser à la manière dont la violence est déployée au niveau local, dans cette commune, en l'espace de seulement quelques jours, 2-3 jours finalement, qui forment le cœur du procès. Et c'est donc une confrontation d'une justice internationale qui, il s'est rappelé dans le sujet, est pensée pour juger les plus hauts responsables, les cerveaux, les organisateurs, mais qui va aussi s'intéresser à ces organisateurs au niveau local, dans ce cas-ci, à travers le procès du bourgmestre.
Alors, à Kayesu, dans un premier temps, il était plutôt opposé au massacre. On ne connaît, à ma connaissance, qu'un seul bourgmestre qui se soit opposé jusqu'au bout. Lui aurait pu s'opposer plus longtemps. Il a basculé.
Alors, en tout cas, il bascule. Alors, je ne peux pas répondre à la question de ce qu'il aurait pu faire. Alors, opposé, en tout cas, ce qu'on observe à travers les témoignages des anciens habitants de la commune qui viennent donc à Arusha pour être entendus par les juges, c'est que durant environ 2 semaines, la commune demeure relativement stable. Alors, est-ce qu'ils s'y opposent? Est-ce que les conditions ne sont pas réunies? Voilà, et là, il reste encore des choses à creuser peut-être. Mais en tout cas, ils observent cela. Mais en même temps, on observe des incursions. Les Tutsis sont inquiets. Donc, il y a beaucoup de témoignages qui racontent que la nuit, ils vont dormir en dehors de leur maison parce qu'ils ont peur, etc. Donc voilà, il y a quand même un climat très tendu, bien sûr. Il y a des réfugiés aussi, des massacres de Kigali qui arrivent dans la commune, qui se réfugient au bureau communal. Et donc, à partir d'un certain moment, le bourgmestre va assister à une réunion avec le gouvernement intérimaire, ce gouvernement qui organise le génocide et qui s'est déplacé à proximité en fait, de la commune, dans la ville de Gitarama.
Oui, poussé hors de Kigali par l'approche de Kagame. Oui.
Et donc, après cette rencontre, le bourgmestre va commencer à organiser des réunions, dont une sera au cœur du procès, mais on voit là encore une fois à travers les témoignages qu'il y en a plusieurs, et va s'afficher avec les miliciens, avec les policiers communaux aussi qui encadrent les massacres.
Les miliciens, leur nom, en Kinyarwanda, désigne ceux qui sont ensemble. Et il n'y a pas besoin qu'ils prennent de l'alcool, comme on l'a souvent soutenu. Ils procèdent calmement, méthodiquement. Et donc le maire, il va s'associer?
Alors, lui-même n'est pas jugé pour avoir tué. Il y a un témoin qui est interrogé à ce sujet. C'est un passage très fort où les juges demandent « Mais donc, avez-vous vu Monsieur Akayesu tuer ?» Et donc le témoin répond « Il a tué par ordre. » Le fait de s'afficher à côté des miliciens, de ne pas condamner leurs actes, le fait de mener des réunions avec celui qui est considéré comme le leader de ces miliciens et d'autres responsables politiques de la commune, fait qu'il donne un message qui, en tout cas, ne condamne pas ces massacres et qui va même beaucoup plus loin, puisqu'il va être condamné pour incitation à commettre les génocides, parce qu'il va nommer un certain nombre d'habitants nommément dans ces réunions qui doivent être pourchassés. Et donc, la violence qui émerge dans cette commune, elle se fait d'abord via la chasse à ces personnalités, et puis elle s'étend à l'ensemble des personnes, notamment celles qui sont réfugiées autour du bureau communal.
Condamnation à la prison à vie pour Akayesu, qu'il purge au Mali, tribunal pénal international, donc la prison peut être hors du Rwanda. 60 journées d'audience, 41 témoins, un procès qui, suivi par celui de l'ancien Premier ministre du gouvernement intérimaire, a beaucoup de retentissement. Mais en même temps, un procès qui a manifesté les lenteurs du tribunal pénal international, un tribunal pénal international qui a du mal à faire sa communication au Rwanda, dont les juges ne connaissent pas le Rwanda, dont le site internet longtemps n'est pas tenu en Kinyarwanda.
Malgré l'utilisation des techniques de communication les plus modernes, le courant ne passe pas trop bien entre le TPIR et la population locale.
Internet, c'est pratique, mais est-ce vraiment la meilleure manière d'expliquer aux Rwandais l'utilité et le travail du TPIR ?
Disons qu'on ne dirait pas que c'est vraiment le seul moyen, parce que nous, ce que nous avons ici, ce n'est pas seulement ça. Par exemple, faire du cinéma.
Le TPIR participe depuis peu à l'organisation de séances de cinéma dans les villages. On y projette un film expliquant le rôle, le fonctionnement et les résultats du tribunal. À la fin de la projection, la plupart des spectateurs auront quitté la salle sans éprouver le besoin d'exprimer le moindre avis, de poser la moindre question sur l'action du tribunal pénal international.
Allô.
Je vous montrais bien, on est là, Robetta, comment le tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est un livre chez Belin que vous publiez, apparaît comme un produit d'importation, mais les mêmes réserves ont été faites par les populations concernées en Serbie devant le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Kagame et le gouvernement de Kigali, en 2011, proposent, eux, de réactiver un mode traditionnel de résolution des conflits, le gachacha. Gachacha, ça veut dire herbe verte, hein. Gazon, c'est-à-dire l'endroit où on se réunit en cercle et où peuvent se dire, pour l'ensemble des villageois, les uns à côté des autres, parfois les uns écoutant les autres, face à face, beaucoup de choses que la retenue traditionnelle des Rwandais empêchait d'exprimer.
Dans la population, il y aura d'abord tout un principe d'élection. Et donc, on élit un collège, etc., qui va statuer, qui sont ce que l'on appelle des personnes intègres. Donc, le critère, si vous voulez, se fait sur une question de moralité, de capacité, d'écoute, de bon sens, de modération. Donc, ces personnes-là, qui seront les juges gachacha, fera venir en tout cas la personne accusée. La population sera présente, il y aura une assemblée générale de la population d'un lieu. Donc on prend un lieu territorialement déterminé, ça peut être une cellule, qui est l'une des plus petites unités administratives, ou ça peut être la commune. Et on fait venir ce détenu, et alors on donne la parole à tous. Le génocide s'est commis pendant 3 mois, au vu et au su de tout le monde, puisque les faits se commettaient en pleine journée. Eh bien, on appelle tous les acteurs, tous les témoins du moment, et on leur demande de dire ce qui s'est passé.
Je reconnais avoir tué mon propre frère, Joseph Kanamugire. Quand je suis arrivé, on m'a dit « Tue ton frère ». Ils m'ont donné un gourdin, je l'ai frappé 2 fois, et il est mort. Je ne sais même plus comment je l'ai frappé. Moi-même, je n'étais plus un humain.
Attendu qu'il a plaidé coupable et demandé pardon, le tribunal accepte ses aveux et le reconnaît coupable du meurtre de son frère, Kanamugire. Le tribunal le condamne à 7 ans de prison.
Encore un emprunt au cinéma belge au nom de la loi. Ornella Rovetta, là, d'autres critiques ont été faites. Sentimentalisation de la justice, théâtralisation.
C'est vrai que toute la justice post-génocide, et donc ici on voit bien qu'on a finalement un paysage judiciaire qui est très diversifié, c'est-à-dire qu'on a un tribunal mis en place par les Nations Unies en 1994, on a ensuite le Rwanda, on peut le rappeler aussi, qui va adopter une loi spécifique sur le génocide et les crimes contre l'humanité en 1996, qui va permettre la tenue des procès, notamment celui dont on a entendu un extrait à Boutaré, donc devant les tribunaux de première instance. Et puis il y a la mise en place, à partir de 2001, en tout cas la loi de 2001 sur les gachacha, qui vont réinstaurer cette espèce d'instance d'arbitrage local, mais qui en fait sont réellement de nouveaux tribunaux créés pour juger spécifiquement les génocidaires, dans un contexte où on se rend compte que la justice classique, entre guillemets, ne peut pas gérer ce contentieux judiciaire qui est énorme. Et donc, ces juridictions Gacaca fonctionnent de façon tout à fait différente. Elles sont effectivement également critiquées. On a d'une part une justice internationale qui fonctionne avec des juges qui ne sont pas rwandais, qui doit faire face à cette distance que montre bien le reportage aussi. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une des premières critiques qui avait été adressée au TPIR, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on installe ce tribunal en dehors du Rwanda, ce qui va finalement priver quelque part les Rwandais d'avoir accès à cette justice et de pouvoir se l'approprier. Donc le TPIR, c'est un peu moins de 80 personnes jugées. Et puis les Gacaca qui, à l'inverse, vont traiter près de 2 millions de dossiers. Alors, bien sûr, ça va des crimes contre les personnes, les crimes les plus graves, aux crimes contre les biens également, qui, là, se trouvent au plus près. C'est-à-dire que, voilà, on est sur les lieux même de la perpétration des crimes. En tout cas, on est voilà, dans les secteurs, dans les communes, comme ça a été évoqué dans le reportage.
Diversification. Il y a aussi la possibilité pour certains pays qui ont adopté la compétence universelle d'intervenir pour empêcher l'impunité de crimes graves, crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, la France et la Belgique, votre pays, précocement ont établi la compétence universelle, ce qui fait que, en 2001, a pu avoir lieu à Bruxelles le procès des quatre de Boutaré, un homme d'affaires, un professeur d'université, parce que il y a des gens qui pensent le génocide et qui ont des bibliothèques hautes jusqu'au plafond. Et puis deux religieuses, parce que hélas, des massacres ont été commis par des miliciens jusque dans les églises, comparaissent pour crimes contre l'humanité. J'insiste, à Bruxelles et devant un jury populaire belge.
C'est une première, voir un pays occidental juger sur son territoire des ressortissants étrangers pour un crime qui a été commis à l'étranger, par des étrangers, sur principalement des étrangers.
Lorsqu'on était inquiet du déroulement du procès, on se demandait si le jury allait être concerné, allait arriver à comprendre, allait à entrer dans le génocide rwandais des Tutsis en 1994. Et finalement, les choses se sont passées extraordinairement bien. L'enquête a été en fait complètement refaite pendant ces presque six semaines de débats, avec une participation vraiment extraordinaire des membres du jury, qui ont parfois posé des questions, qui ont amené les accusés qui avaient adopté un système de défense à changer complètement de déclaration.
Une avocate belge, Maître Hirsch, après le président de la communauté rwandaise de Belgique.
Oui, alors effectivement, la compétence universelle, très importante, ça permet, comme on l'a dit dans le reportage, aux États tiers de se saisir de ce crime et donc d'organiser des procès. La Belgique avait une loi depuis 93 qui permettait de poursuivre. Et donc l'enquête qui va mener à ce premier procès en 2001 est une enquête qui débute dès 1995-96 et qui après va prendre du temps à arriver au stade du procès. Donc on est de nouveau dans des procédures qui sont quand même assez longues, avec certes l'importance de la compétence universelle. Pour le moment, 4 procès en Belgique, ce qui est important, mais reste malgré tout un nombre modeste. Mais en tout cas, dans les trois cas, je dirais la façon dont le Rwanda juge, le TPIR au niveau de la communauté internationale et puis la compétence universelle. Il y a eu aussi 2 procès en France jusqu'à présent. Ce sont des signaux forts quand même qui montrent qu'il ne peut pas y avoir une impunité après la perpétration du génocide.
Je parlais de la précocité de la Belgique en matière de commission d'enquête. Il y a eu mieux que la commission qui laisse Cazeneuve, qui a laissé des souvenirs mêlés en France. Vous avez eu une commission d'enquête en Belgique.
Effectivement, il y a une commission d'enquête parlementaire qui débute ses travaux en 96, qui va donc rendre son rapport en 97, et qui est une commission d'enquête qui a 2 volets, disons. Le premier volet, est relatif à l'assassinat des 10 casques bleus, des 10 parabelges qui étaient présents au Rwanda en 94, on avait une 94. Et puis le deuxième volet, c'est sur les événements, essayer de contribuer à établir les faits, les événements qui se sont produits au Rwanda. Et ce qui est très intéressant dans cette commission d'enquête, c'est qu'elle va y compris prendre en compte ce qui se passe avant 94. Donc il y a quand même un souci aussi d'inscrire ce qui se passe en avril 94 dans un temps un peu plus long.
Quand les politiques font bien leur métier, il n'y a pas besoin de commission d'historiens, et pour que les commissions d'historiens fassent bien bien leur métier. Il ne faut pas que les politiques leur mettent des bâtons dans les roues. Cette émission consacrée au Rwanda et à votre livre chez Belin, Ornella Rovetta, était préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Ninka Negudesto. Gilles Gaillard à la technique, Valérie Aestaraille à la réalisation, et je n'ai pas laissé à Mathieu Vidard, si je vous le laisse, le soin et le bonheur d'indiquer qu'il souhaite un anniversaire.
Les 30 ans du web, Jean.
Dans un instant.